les sports. Tous les sports. CFM.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Eh oui, moi je vous fais la Marseillaise puisqu'elle y était pas sur le lancement du fameux match France-Honduras que tout le monde
ah oui.
a regardé ici. Bonjour Jennings.
Salut Rémi, salut tout le monde.
Salut David Dumont, Jean-Claude Desfarges, David Fabier dans les studios de CFM Rodez. Comment allez-vous?
Ça va très très bien, bonsoir tout le monde.
Salut, salut.
Jean-Claude Vigroux, pardon.
Je te remercie. Hein.
Et Jean-Claude Desfarges à Caylus. Salut, Jean-Claude.
Salut, 1, 2, 3, marché. Je suis au camp militaire.
Oh là oui, là, dis donc, on dirait carrément même que t'es sur la Lune. Mais bon, on a une liaison, c'est déjà pas mal. Donc tu es avec nous. On va s'intéresser aujourd'hui, évidemment, à cette Coupe du Monde que vous suivez ardemment les uns et les autres. Vous nous raconterez un petit peu comment vous suivez cette Coupe du Monde, avec qui, pourquoi, dans quelles conditions. On s'intéressera à Montauban à un événement qui accompagne cette Coupe du Monde, qui est le beach soccer. Vous savez qu'il y a un tournoi de beach soccer pendant tout le mois ici et tous les soirs, eh bien, il y a des équipes qui s'affrontent et évidemment il y a des écrans géants aussi pour suivre les tournois de la Coupe du Monde, les matchs de la Coupe du Monde. On s'intéressera également au rugby avec un reportage qui sera déjà un peu vieux, qui a déjà 15 jours sur l'USM qui est champion de sa catégorie et qui du coup est monté en Pro D2, mais c'est intéressant de diffuser ce reportage signé Jean-Claude Desfarges parce que eh bien c'était quand même un grand moment, un moment qui a soulagé les Montalbanais de quelques années comme ça de purgatoire. Donc c'est important aussi de pouvoir y revenir. Eh ben voilà, et on commence évidemment par des résultats nationaux et internationaux en football. Jean-Claude Vigroux.
Eh bien, jeudi, c'était l'ouverture de cette Coupe du Monde avec le match d'ouverture qui voyait le Brésil remporter sa victoire difficilement face à la Croatie par 3-1 avec 2 buts de Neymar. En poule B, la surprise du jour vient des Pays-Bas qui a battu l'Espagne, le tenant du titre, et pas petitement, pas chichement. Ils ont gagné les Pays-Bas par 5-1. Je pense que l'entraîneur Del Bosque, l'entraîneur espagnol, a dû avaler son chewing-gum à la fin du match. En poule C, la Colombie a battu la Grèce par 3-0. La Côte d'Ivoire a battu le Japon 2-1. En poule D, l'Uruguay, que l'on voyait dans les favoris, s'est fait battre par le Costa Rica par 3-1. L'Angleterre, match difficile, match d'ouverture difficile face à l'Italie, puisque c'est l'Italie qui a remporté le score par le match par 2-1. En poule E, l'Équateur a été battu par la Suisse 2-1. Ça a été assez difficile pour les petits Suisses. On peut pas dire qu'ils aient joué comme des fromages, mais ça n'a pas été brillant comme résultat. Et bien sûr, comme vous le chantiez en début d'émission, la France a bien réussi son match d'ouverture en battant l'Honduras par 3-0. 2 buts de que l'on attribue à Benzema, qui était très beau, sur un sur penalty, l'autre sur une reprise à l'intérieur des 6 mètres, un boulet de canon qui est venu se loger sous la transversale du gardien hondurien, et le deuxième but assez litigieux, car même l'arbitre a eu des doutes à un moment donné. Le commentateur de TF1, lui, était dans le coma complètement.
Ouais, mais ça, c'est habituel. Hein.
Ah, oui,
dans le coma. Ouais.
Ah, oui, bon. Oui.
Bon, si vous le dites, il a fait comme Schumacher.
Il va falloir qu'il s'en sorte.
La France a gagné 3-0. C'était pas un grand match brillant. C'était un match sérieux, solide face à une équipe de Honduras qui, comme le prévoyait l'entraîneur français Didier Deschamps, est une équipe très rude à jouer, très difficile. C'est des garçons qui n'ont pas de frein. Lorsqu'ils vont vers un ballon, ils vont tout droit. Donc, si vous êtes devant, bonjour, on vous renvoie dans les tananquaires et c'est fini pour vous. Et les Français s'en sont bien sortis. Belle victoire de l'équipe de France. L'Argentine a battu difficilement la Bosnie par 2-1 grâce but, le deuxième but marqué pour l'Argentine par Messi. Messi était le bien nommé, il n'y a pas eu de miracle, mais le Messi était là, et il a mis son deuxième but sur une action personnelle, après avoir passé la défense de la Bosnie, il a mis une frappe de 16 mètres qui s'est logée au ras des poteaux, juste ce qu'il fallait pour tromper le gardien bosniaque.
Et je sais pas ce que vous
dans
en pensez.
Dans l'apologie, mais... rien ne s'est joué. Tout à l'heure, vous l'avez dit, à 18h aura lieu le match Allemagne-Portugal. Et dans la poule H, eh bien, non plus, rien ne s'est joué. Il va y avoir un match important. C'est Belgique-Algérie qui se jouera demain à 18h.
Et Iran-Nigeria ce soir à 9h, personne ne regarde, quoi. Tout le monde s'en fout, quoi.
Ça, c'est
moi, j'aimerais bien regarder à la limite, mais le problème, c'est Beansport. Ah. C'est que ces matchs-là, tous les matchs de la Coupe du Monde de football, pour la première fois cette année, sont pas sur les chaînes gratuites, quoi. Ouais. Donc, le fan de foot, ben, comme moi, qui a pas de sous, eh ben, il loupe un.
Oui, mais il y a des matchs sur
Algérie.
TF1 quand même.
Et il n'y a pas Iran-Nigeria sur TF1?
Non.
Non, non, non.
C'est étonnant.
Et qu'est-ce que je vais dire? Oui. Jean-Claude Vigourou, je pourrais te poser une question. Benzema, qui était si mauvais il y a quelques mois, qui n'arrivait pas à planter un but, est-ce qu'il a enfin trouvé une chaussure droite et une chaussure gauche? Parce qu'apparemment, avant, il n'avait que deux chaussures gauche.
Mais Benzema n'a jamais été mauvais. Je pense que c'est un garçon qui manque de confiance un peu et qui est irrégulier dans sa façon de s'exprimer sur un terrain. Et le fait d'avoir marqué ses presque 3 buts face au Honduras, je crois que ça va lui redonner confiance dans la mesure où la tête n'en fera pas non plus et qu'il pourra mettre son béret sur sa tête, il pourra le rechausser.
Messieurs, tant qu'on y est, je voudrais vous demander aux uns et aux autres comment vous vivez cette Coupe du Monde. Jennings, comment tu as regardé le match France-Honduras?
Bah écoute, chez moi, tranquille, ouais. Je me suis dit, voilà quoi, j'ai été très content quoi. Puis ça a été une, comment dire, un match assez moyen, j'ai envie de dire, parce que bon, les Honduriens, on savait que c'était des gars très athlétiques, mais bon, on en faisait des bouchées, les mecs. Mais alors, en fait, non, ils y sont allés, mais sans trop. L'équipe de France a réussi à développer son jeu comme elle le voulait. Et ensuite, il y a eu une très belle performance collective en général avec... Mathieu Valbuena et puis un Karim Benzema en feu, et je suis assez d'accord avec ce que t'as dit, Jean-Claude, tout à l'heure. Karim Benzema, il n'a jamais été mauvais, c'est juste que il était en perte de confiance par rapport à ce... voilà, il marquait jamais en équipe de France, et celui qui l'a remis sur le droit chemin, j'ai envie de dire, c'est Ancelotti, parce que il l'a jamais mis sur le banc, et c'est ça qui lui a permis de reprendre la confiance après, alors que s'il l'avait mis sur le banc, alors là, c'était fini.
Tout le monde semble oublier que le premier but, quand même, il est sur un pénalty, non? C'est pas quelque chose qui, justement, met en confiance la France et fait perdre déjà un petit peu d'espoir au Honduras, David Fabier?
Non, moi je pense pas. Je pense que bon, le penalty il est indiscutable. Il y a rien, oui, à dire. En plus, c'est une deuxième faute, donc malheureusement c'est la sanction. Du coup, c'est le rouge. Non, je pense pas. Je pense que l'équipe de France a bien attaqué cette Coupe du Monde. C'est un fait de jeu. Ça fait partie. Voilà, le penalty fait partie du jeu. Là, pour le coup, il y a réellement faute, comme l'a très bien dit Jean-Claude. Voilà, le Honduras, ben c'est solide, ça envoie du, enfin voilà, c'est costaud, ça envoie du lourd, mais c'est pas très très fin dans le jeu. Je trouve que la France a bien négocié son premier match, 3-0, j'en attendais pas autant, c'est très bien pour la suite. Les buteurs sont en confiance. Voilà, la petite déception que j'aurais, c'est pour Olivier Giroud. J'aurais aimé le voir titulaire, ce garçon, je trouve qu'il avait fait de très bons matchs de préparation. Bon, mais voilà, c'est un choix de Didier Deschamps, on peut pas lui reprocher, le résultat est là pour lui, donc que ça dure comme ça.
Et Paul Pogba, très nerveux, je trouve, depuis le match face au Paraguay. Je pense que Didier Deschamps, faudrait qu'il le remette un peu.
Maîtrise ce garçon, parce qu'il va avoir des problèmes, il verra pas les. Ouais. Si la France se qualifie, il verra pas les autres matchs.
Tout
il
à fait, ouais.
Pas, hein, parce que là, il boue un petit peu trop vite.
Et puis, globalement, c'est quand même une très belle Coupe du Monde. Hein. On est en moyenne de 3 buts par match. C'est quand même pas mal. Et puis, des surprises, quoi. Les Pays-Bas qui tapent carrément l'Espagne, ça, personne ne pouvait le prédire après parce que... quelques matchs mauvais. Et puis, une dernière chose, le Costa Rica qui tape aussi l'Uruguay, c'est une grosse surprise, ça aussi.
Ouais. Et la Suisse qui a failli perdre.
Oui, tout à fait. Ça a été un match très difficile pour les Suisses. Les Suisses qu'on donnait favoris de la poule E, où joue l'équipe de France. Eh bien, la Suisse a eu du mal pour se débarrasser de l'Équateur.
Ouais, mais ça, je suis peut-être un peu moins surpris que vous, parce que l'Équateur et le Honduras étaient des équipes, comme vous voyez, assez défensives. Et ça a été le cas, et le Honduras n'a pas fait grand chose collectivement, hein. À chaque fois c'était des ballons longs, et là où ils ont réussi à se créer des occasions, c'était en contre. Donc c'est une équipe très défensive, et voilà, ils, quoi, sinon
ils ont joué à la hollandaise,
et ah non
ouais, les hollandais ils ont eu les espagnols sur des balles de contre, parce que les espagnols ils ont joué à la baballe. Je crois que l'Espagne là ils avaient pas la sangria, hein, parce que
ils sont cramés pas de place, ces mecs. Ils sont cramés, et là, les Espagnols.
L'équipe des Pays-Bas est une équipe physique, pas méchante, mais physique. Non. Donc, il ne faut pas les frictionner de trop près, parce que c'est des garçons qui sont puissants, qui vont très vite. Alors que les Espagnols, ce sont des artistes du ballon, quoi. On joue à la baballe, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis, quand vous prenez un tampon en face, vous perdez le ballon. Et c'est une contre-attaque. Et ça va au fond. Et c'est allé au fond 5 fois.
Ouais.
Dans la série Le foot expliqué à ma femme, il y a un deuxième but qui est marqué par un joueur hondurien contre son camp, me semble-t-il.
Le gardien,
voilà, et qui c'est le mec qui est dans les cages, hein, le gardien, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais. Et, il y a le gardien du stade aussi.
Et alors, il y a eu l'ajout pour cette Coupe du Monde, pour la première fois, d'une nouvelle technologie, la ligne de but ou je sais pas quoi. Qui m'explique ça?
Eh ben, écoute, c'est les capteurs qui sont mis sur la ligne de but dans chaque cage. Et qui permettent de savoir si le ballon est rentré ou pas. Et à ce moment-là...
C'est pas la caméra, on est d'accord. Il demande pas la caméra, comme au rugby.
C'est pas un replay, non.
D'accord.
Et en fait, c'est ça. Si le ballon rentre, il y a une sonnerie ou une... Comment dire,
un bip,
voilà, merci. Qui dit goal, c'est marqué goal sur la montre de l'arbitre.
Ah, d'accord.
Et dans ces cas-là, voilà, il est annoncé comme ça.
Rémi.
Oui, Jean-Claude.
Si c'était comme au rugby, le Brésil aurait pas eu un penalty, parce que le penalty qui a été filé au Brésil, c'est un penalty imaginaire qui est à la limite de la honte, parce que je pense qu'ils ont voulu arrêter les émeutes avec un penalty, moi.
Ouais, d'accord, mais bon, alors,
on va pas aller
juste
sur ce terrain-là.
Juste, moi, je voulais juste dire quand même qu'on gagne 3-0, c'est super, que le premier but, on le marque sur un penalty, le deuxième, c'est le gardien qui le marque. Heureusement qu'on avait Benzema pour faire une belle action et marquer le troisième quand même. Ça en fait.
Oui, mais sur l'ensemble du match, les Français ont dominé et techniquement, ils ont été nettement supérieurs au Honduras.
Ah oui, largement.
Deux ballons sur les poteaux.
Et deux ballons sur les poteaux. Oui.
Et deux ballons sur les poteaux.
Et oui.
Comment vivent les uns et les autres la Coupe du Monde de football? Moi, je la vis sur mon téléphone portable, je sais pas vous, mais moi, j'ai une petite application que j'ai téléchargée sur mon téléphone. Alors, ça s'appelle... Vous voulez que je vous dise comment ça s'appelle? C'est vachement bien. Ça s'appelle OneFootball Brazil. Voilà. Et donc, ça m'envoie les résultats, instant après instant. Ça me dit qui joue contre qui. Moi qui n'y connais strictement rien, je suis super calé.
Est-ce que tu regardes les résumés?
En Coupe du Monde. Et évidemment, il t'envoie des textos, minute par minute, pour te dire qui a fait la passe à qui. Et
là, à la télé.
Mais non, je regarde pas la télé. David Fabier, comment tu la vis, cette Coupe du Monde? Est-ce qu'il y a des pots, des gros apéros avec les copains autour de la télé qui sont organisés, des barbecues, des choses comme ça?
Exactement, c'est exactement comme ça que ça s'est passé hier soir. On était tranquillement dans un petit bar là, de mon pote Barbu, là, le Saint-Roméo à Sainte-Juliette. J'ai fait un coucou d'ailleurs, une petite pizza tranquillement, de la bière, de la bonne humeur, des copains et la Coupe du Monde, donc tout va bien, quoi.
Bon, d'accord, c'est pas...
Ouais, non, c'est pas vrai, on demande avec les potes, quoi. C'est-à-dire une pizza, une bière, on refait le match, on pète des raisonnements, on insulte l'arbitre, voilà, normal, quoi. Moi, je balance avec les copains.
David Dumont?
Moi, plus simple, je suis pas encore allé la vivre collectivement. Je suis tout seul devant ma télé comme un malheureux avec mes chips et mon coca.
D'accord, mais donc tu regardes le match tout seul, quoi, voilà.
Hein, ouais.
Comme, bienvenue au club.
Comme Jennings, voilà.
Attendez-vous.
Monsieur Vigroux, Maître Vigroux, comment regardez-vous le match?
Je vous en prie, cher ami. Écoutez, moi, je ne veux personne pour regarder les matchs de football. J'ai regardé un jour une Coupe du Monde avec des copains. Il y en a un qui m'a décroché le lustre, l'autre qui m'a cassé un fauteuil. Je ne veux personne. Et les trois quarts des personnes que j'avais invitées à l'époque n'y connaissaient rien au ballon. Alors, ça me gonfle un peu. Moi, j'ai un fauteuil bien confortable. Comme dit, moi je bois pas de bière, moi je suis comme certains.
Oh oui, ça va.
Après, quand on les voit, on comprend qu'ils boivent de la bière, hein, c'est pas. Moi je bois une petite infusion tranquillement et j'analyse mon match tout seul.
Infusion de poire,
infusion de prune ou infusion de poire, hein, dites-moi. Et Jean-Claude Desfarge, comment il fait, lui ?
Alors, moi, je suis exactement comme Jean-Claude Digourou, mais par force, parce que je supporte pas le bruit quand je regarde le match de foot. Alors, je vais te dire. Je l'ai écouté hier, le match, à la radio. Je l'ai enregistré et je l'ai regardé ce matin tranquillement. J'ai fait aller-retour sur le deuxième but de Benzema. Il est rentré, c'est le gardien qui le rentre. Je prends le temps de regarder le match. J'ai regardé à peu près, on va dire, en accéléré, 1h30 de ce match. Et j'ai bien compris que la France avait largement dominé le Honduras et que si on continue comme ça, on va aller loin.
Bon, super. Je vous propose de poser la même question à Benoît Morel, qu'on accueille par téléphone. Il est le président de l'association Beach Soccer 82, qui organise durant tout le mois de juin, eh bien, un tournoi de beach soccer ici à Montauban. Ils ont installé des terrains de sable à Alba Sud, à côté de Décathlon. Et voilà, tous les jours, il y a des tournois. Tous les jours, des footballeurs, des beach soccer rencontrent d'autres beach soccer, mais il y a aussi justement des écrans géants pour pouvoir suivre en même temps les matchs de la Coupe du Monde. Donc je voulais savoir comment Benoît Morel, lui, vit cette Coupe du Monde. Benoît Morel, bonjour.
Bonjour à tous.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Alors, pour vous, justement, en tant qu'organisateur de ce beach soccer, quelle place a la Coupe du Monde ce mois-ci ?
Ben, on va dire que c'est un élément phare de notre organisation, puisque bon, c'est la troisième édition que nous réalisons sur le site de Décathlon. Notre socle, bien sûr, c'est ce tournoi inter-entreprise hein, qui regroupe cette année 15 équipes. Donc, je vais vous les citer rapidement hein, parce que c'est important. Ils aiment aussi être en valeur dans cette organisation. Donc, nous avons le GAD, GEDIMAT, le Conseil Général, Vadicom, Monsieur Bricolage, Renault, Oxygène Intérim, le Xéricole, la MAF Agrobotique, ProPro, Décathlon, BTC, le COSDERI Motoran, Sud-Dynamique et donc Auchan. Voilà, donc sur ces équipes se disputent un tournoi amical sous l'égide du fair play, puisque c'est quand même notre faire-valoir et nos valeurs, donc nous essayons de mettre en avant tout au long de cette manifestation. Et on peut dire qu'aujourd'hui, l'événement remplit un grand succès à travers ses valeurs, puisque ce tournoi se déroule dans de très très bonnes conditions. Et comme vous l'avez indiqué, c'est vrai que nous retransmettons la Coupe du Monde sur grand écran, et on va dire que ça met une émulation supplémentaire, puisque nous avons de plus en plus de monde chaque soir, depuis l'ouverture, à assister à tous ces matchs. Voilà.
Ouais, il y a une bonne ambiance au beach soccer, là, autour des terrains, ouais, tous les soirs.
Voilà, c'est ça. Donc, on sent, grâce aussi à l'apport de la météo cette année, puisque bon, c'est vrai que les années précédentes, on n'avait pas été très gâtés. Mais cette année, bon, c'est une grande réussite. Et on sent un engouement de plus en plus important autour du tournoi inter-entreprise, puis toutes les animations, bien sûr, que nous avons réalisées depuis le départ de cet événement.
Donc, le tournoi, lui, comment il se déroule ? C'est un peu tous les soirs qu'il y a des matchs, c'est ça ?
Voilà, donc on va dire que le début de semaine est consacré donc au tournoi d'entreprise, entre le lundi, le mardi, le mercredi. Le jeudi, ce sont des tournois aussi orientés vers le beach rugby. Et le vendredi, toute une organisation aussi autour des anciens, des vétérans, voilà, qui viennent aussi pratiquer le beach soccer.
D'accord. Donc là, ça fait du monde, hein, évidemment.
Voilà, c'est ça.
Vous avez de quoi faire, de quoi accueillir tous ces gens. Il y a des animations, les matchs. Je vois qu'il y a aussi des jeux gonflables, non, pour les enfants, il me semble.
Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que nous avons essayé aussi de faire plaisir à toute la famille. Hein. Quand les hommes jouent pendant le tournoi d'entreprise, leurs épouses peuvent aussi venir sur le site avec leurs enfants aussi, donc pour voir les occuper. Nous avons installé des jeux gonflables. Nous avons une piscine. Donc
les jeux gonflables, c'est pas pour les mamans, hein, c'est pour les enfants. On est d'accord.
Bah, écoutez, bon, les mamans sont là pour les février, donc c'est déjà pas mal. Et nous avons aussi une cuisine qui, avec qui nous sommes en partenariat, sur la société Aquanatation, voilà, qui aussi peut nous dispenser de cours d'aquagym ou de baptême de plongée gratuitement, mais sur réservation.
Bon. Et est-ce que vous avez organisé, avec, votre public, justement, je sais pas, des animations autour de la Coupe du Monde elle-même, est-ce que il y a un jeu sur les pronostics, ou des choses comme ça qui sont faites?
Mais effectivement, donc pour vendredi, il y a un pronostic qui est lancé. Voilà, donc tous les soirs, à partir de ce soir, puisqu'on reprend sur la deuxième semaine du tournoi d'entreprise, un pronostic sur l'équipe de France. Puisque bon, on va essayer de tourner tout autour de l'équipe de France, puisque bon, tant que les qualifications des trois matchs sont ouverts, entre ce deuxième match et le troisième match de la poule, ben nous allons ouvrir un pronostic. Voilà, puisque nous avons quelques lots comme des maillots du TFC signés par tous les joueurs. Nous avons encore le maillot de Roy Cantou de Sochaux, plus quelques lots donc offerts par nos partenaires divers et variés.
Bon, David Dumont, une question pour notre organisateur du beach soccer Montalbanais.
Ouais, alors une question toute bête, vous l'avez peut-être dit, mais je suis désolé, j'ai peut-être pas bien entendu. Ça se passe où exactement?
Donc le magasin Decathlon a un parc sportif attenant au magasin. Ouais. Et donc c'est sur ce site que nous sommes installés. Voilà, donc vous pouvez passer par le magasin lors de l'ouverture du magasin et après 19h30. Donc il y a un petit portillon qui est ouvert à côté du magasin où l'accès donc est ouvert à tout le monde.
Voilà, et ça se passe sur la zone Alba Sud, David.
Voilà, merci, merci. Et alors autre info, donc beach soccer, ça se joue sur du sable.
C'est ça.
Il vient d'où votre sable? C'est du sable brésilien, alors... du sable montalbanais, c'est quoi comme sable?
Ben bon, c'est vrai que nous avons aussi quelques points d'ancre sur notre organisation. Nous essayons de faire travailler ben, tout le tissu économique local. Ce sable vient de la société donc Flores, qui a gentiment participé aussi donc à la mise en place de ce sable. Et donc il y a 350 tonnes donc de mise à disposition par la société Flores, ENTP, et donc nous avons investi au sein de l'association une structure gonflable donc qui fait le tour du terrain avec des cages de foot.
D'accord. Je me demandais moi si c'était c'est évidemment pas les mêmes règles, les terrains sont pas aussi grands, la durée des matchs c'est pas la même, il y a pas autant de joueurs sur le terrain, non?
Bon, bien évidemment, le beach soccer est pratiqué à un niveau international. Donc, nous avons adapté à notre public, en fait, les règles déjà. On va dire que pour la structure, ben, c'est quand même des structures officielles, puisque le terrain fait 37 de long par 26 de large. Et donc, ce sont les dimensions officielles du beach soccer. Après, effectivement, nous réalisons des matchs de 10 minutes secs. Et les entreprises, donc, jouent 4 fois 10 minutes par soir. Voilà.
Voilà, 4 fois. D'accord.
Voilà, 4 fois 10 minutes.
Du tout le même football que le football traditionnel, puisque sur le sable, le ballon ne rebondit pas et les gars soulèvent la balle pour les frappes. Hein. C'est pas le même style de football. Hein. Ce sont des petits terrains, comme des terrains de handball, avec des buts comme des buts de handball. Et il faut, on peut frapper de 20 mètres sans problème, là. Hein.
Ouais. C'est ça. C'est vrai que c'est une adaptation complètement différente du foot traditionnel, puisque effectivement, il faut s'adapter au fait que le ballon roule différemment. Il aurait presque des consonances avec le rugby quand le ballon rebondit.
Ouais. Et alors en plus, quand un joueur tombe, contrairement quand il tombe sur un vrai terrain, il peut pas faire semblant de se faire mal parce qu'il tombe dans le sable, donc il peut pas faire aïe aïe j'ai mal.
Mais il n'y a pas que lorsque l'on tombe qu'on se fait mal au football. Ouais. Si le mec vous met une bonne tartine, il a pas besoin de tomber.
Ils ont tout le temps mal.
Un bon tibia un bon coup dans le tibia et ça fait très mal.
Ils jouent pieds nus, ils ont pas des crampons quand même.
Ouais, non, ils jouent pieds nus, ils ont les pieds bandés en général.
Ouais, parce que
et je vous dis, il ne frappe pas avec le ballon au sol. C'est un partenaire qui soulève la balle et c'est souvent des reprises de volée.
Ouais, parce que si tu frappes au sol, tu te pètes les chevilles. Moi, je peux t'en parler. Hein.
Oh, mais parce que toi, t'es douillé. Moi.
Ouais, un rugbyman qui joue au football, c'est pas déjà que le rugbyman n'est pas tellement adroit. Au football, il est minable. Hein.
Le rugbyman n'est pas tellement adroit. C'est Dixit Jean-Claude Vigroux. Merci Benoît Morel d'avoir été avec nous dans Lundi Sport. Vous êtes le président de l'association Beach Soccer 82. Il faut passer vous voir tous les soirs là-bas à Zone Alba Sud derrière Décathlon pour votre tournoi inter-entreprise qui se déroule jusqu'à la fin du mois. Merci à vous.
Merci à vous, grand plaisir. Et on vous accueille avec grand plaisir sur le site.
Ça marche, à bientôt.
Merci, au revoir.
L'info en plus, David Dumont.
Alors, l'info en plus, bah, ça concerne, t'as commencé par ça, Rémi, c'est vrai que c'était l'info du jour hier soir, à part la victoire de l'équipe de France, et alors cette technologie pour valider les buts ou non sur la ligne à l'entrée des cages, mais c'est aussi cet hymne, t'as commencé en chantant l'hymne à la Marseillaise, qu'on n'a pas eu hier soir, on n'a eu d'ailleurs aucun hymne. Problème technique hein, de Sono, on a entendu parler des travaux qui n'étaient pas finis, bah, on a eu là, un petit peu la concrétisation que tout n'avait pas été parfaitement révisé avant le début des compétitions. Et alors hier, justement, le commentateur de TF1 a annoncé que c'était une première historique, qu'on n'ait pas les hymnes dans une Coupe du Monde de football. Et bien sachez que j'ai fait une petite recherche et c'est déjà arrivé. Et alors là, c'était pas involontaire, c'était pas un accident. Cette date de 1966, la Coupe du Monde, cette année-là, se disputait en Angleterre. Et figurez-vous qu'à l'époque, eh bien, l'organisation anglaise avait refusé de passer l'hymne de l'équipe de Corée du Nord. Alors j'imagine pour des raisons politiques. Elle avait pris cette initiative-là. La FIFA n'avait pas du tout apprécié, parce que la FIFA, dictature ou pas, elle s'en fout. Il y a une équipe, ça joue et on fait comme avec les autres équipes. Et du coup, suite à cette décision de l'organisation, la FIFA avait décidé qu'aucun hymne ne serait joué pendant la Coupe du Monde de 1966, à part lors du match d'ouverture de cette Coupe du Monde. Donc voilà, ce qui est arrivé hier par accident, n'était pas une première en Coupe du Monde, ça avait déjà eu lieu volontairement suite à des micmacs avec la FIFA en 1966.
Allez, autre info en plus si tu veux bien. À votre avis, c'est pour vendre quoi ce type de slogan ? Chérie, j'en ai rien à foutre. Chérie, ce soir, tu es hors jeu. Ça fait partie d'une campagne publicitaire bien orchestrée par Marc Dorcel, vous savez, le célèbre le célèbre producteur de X français qui vend avec ça plein de sex toys et il a affiché tout ça.
Les sex toys en forme de joueur, en forme de quoi?
Non, c'est la campagne.
C'est quoi le slogan? C'est chérie, j'en ai rien à foutre.
En forme de Ribéry, le truc. Chérie, j'en ai rien à foutre.
On est d'accord.
Un petit peu de comment dire, de légèreté, David. Hein, de légèreté.
Oui, oui, juste très léger, tu me connais, Rémi.
Vous êtes pris ma soupe, mon cher ami.
Jennings, tu voulais dire quelque chose?
Non.
Non, je l'étais coupé avec sur les pieds. Avec,
Non, si, on peut rajouter que sur l'hymne, c'est marrant de voir maintenant les joueurs qui viennent râler, de dire que c'est un scandale qu'il n'y ait pas l'hymne avant, quand ils leur disent qu'il faut chanter, ça les fait chier, quand il n'y a pas, ça les fait chier.
Ils auraient dû chanter, non?
Ils ont eu du mal à l'apprendre, maintenant qu'ils la connaissent.
C'est ça, bien vu.
Mais hey, tu crois pas qu'ils auraient pu la chanter directement? Voyons ça. Moi, ce que je conseille,
blague à part par rapport à l'hymne, c'est que mine de rien, dans ce stade où il n'y avait pas beaucoup de Français, je crois qu'ils étaient 2000 supporters français, mais mine de rien, on l'a entendu raisonner la Marseillaise par rapport aux supporters qui ont fait le déplacement au Brésil. Et ça, je voulais les mettre à l'avant parce qu'ils étaient vraiment pas nombreux par rapport au Honduras. Et on l'a vu au début du match. On se fait siffler dès le début du match parce que beaucoup de supporters du Honduras sont là. Et à un moment donné, quand dans le match, on entend la Marseillaise raisonner. Et bravo aux supporters qui ont fait le déplacement et qui étaient au stade parce que du coup, on a entendu quand même la Marseillaise raisonner dans le stade.
Ouais, mais c'était FN qui réalisait, non, le match.
Voilà, il suffit d'avoir des micros.
Non, réalisation internationale, non, là c'est pas TF1.
Oui, voilà.
C'est pas un réalisateur français en plus.
Ça se voit d'ailleurs, ils ont mis Christian Jean-Pierre dans une boîte à poules là avec les deux copains. Ils sont vraiment, ils sont pas comme à la maison.
Bon, ce soir vous regarderez. Il y a un match qui démarre à 18h là en ce moment. Là,
c'est gros match. Allemagne-Portugal.
Voilà, Allemagne-Portugal. Et puis tout à l'heure, Iran-Nigeria. Hein, voilà, c'est le match du jour.
Ou alors, est-ce que c'est Allemagne contre Ronaldo?
T'as raison, Jennings. Ça va être un petit peu ça. C'est pour ça que je fais l'Allemagne mon favori, mais Ronaldo peut gagner un match à lui tout seul, même face à l'Allemagne.
Je pense que Ronaldo devra apprendre à sauter ce soir.
Messieurs, c'est l'heure des infos locales. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce lundi sport. On parlera un petit peu plus de rugby dans quelques minutes.
CFM. Il est 18h. Envie de cuisiner à la plancha ce soir? Arrêtez-vous chez les Maîtres du Feu, avenue Chamier à Montauban. Les Maîtres du Feu, offrez-vous l'excellence.
CFM, toute l'info Nord-Midi-Pyrénées.
Bonsoir à tous. Un enfant de 3 ans toujours dans un état grave après avoir failli se noyer dans une piscine familiale. Le drame s'est produit samedi soir dans une maison de Corbarieux. Le garçon a échappé visiblement à la vigilance de ses parents. L'enquête est en cours. Elle devra déterminer les circonstances exactes de l'accident. Parents et proches présents au moment des fêtes devraient être entendus prochainement. Un braquage à Grisolles, un homme armé d'un fusil a fait irruption vendredi dans les locaux de 4M, une entreprise spécialisée dans le bâtiment. Le malfaiteur aurait demandé au chef d'entreprise de lui remettre 15 000 euros en liquide, sans succès. Les gendarmes sont rapidement arrivés sur place. L'enquête est en cours. Le braqueur, lui, court toujours. L'actualité, c'est aussi moins d'impôts pour 30 000 foyers aveyronnais. Cécile Pozzo di Borgo, préfet de l'Aveyron, a présenté vendredi le pacte de responsabilité et de solidarité. Dans ce pacte, deux objectifs majeurs mis en avant, accélérer la création d'emplois et augmenter le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. Par ailleurs, le projet des emplois d'avenir est une réussite grâce à 431 contrats signés pour un objectif de 256 en 2013. Et l'enveloppe est donc renouvelée pour l'année 2014. Il refuse le projet de fusion avec la région Midi-Pyrénées. Les élus régionaux de Languedoc-Roussillon ont adopté samedi une motion contre ce projet prévu par la nouvelle carte régionale élaborée par François Hollande. Ils craignent de perdre une partie de la dynamique économique de leur territoire et d'être, je cite, absorbés par Toulouse. En bref, les majorettes à l'honneur à Dieupentale samedi à l'occasion de la fête de la musique. Les majorettes Gaga Girls organisent un festival, 10 groupes de majorettes qui défileront dans le village de 10h à midi. La fête se poursuivra entre autres avec l'élection de Miss et Mister Dieupentale. Enfin, l'emblématique épreuve de philosophie a donné ce matin le coup d'envoi des écrits du bac 2014 marqué par la grève des cheminots, mais aussi déjà par de premiers soupçons de fuite de sujet. Le ministère de l'Éducation, qui exclut d'annuler l'épreuve, a immédiatement annoncé avoir saisi la gendarmerie nationale. Voilà, belle fin de journée à vous tous. Ça se passe évidemment en CFM.
Le sport, tous les sports, CFM.
On ne vous a pas encore dit que Schumacher s'était réveillé, mais ça pourrait bien arriver dans la suite de cette édition de Lundi Sport. Dans quelques instants, on parle rugby avec Jean-Claude Desfarge pour quelques résultats locaux. Il nous dira où en est la saison. L'USM est monté et c'est tant mieux. Et puis on fera également un tour du côté du tournoi international jeune en Aveyron. Ça, ce sera du football. Et bien sûr, avec Jennings toujours et Benjamin Louis, les résultats. Handisport, on commence par Jean-Claude Desfarge et le rugby.
Oui, donc notre équipe de France est sur les îles en Australie après la première raclée, on va dire ça comme ça, subie le week-end dernier. Philippe Saint-André a voulu resserrer les boulons, bah, il les a bien resserré les boulons puisque le match Australie-France s'est fini sur le score ridicule de 6-0, il y avait 0-0 à la mi-temps. Aucune attaque, il a fallu attendre la 83e minute pour voir les Français se faire 4 passes, pour essayer de marquer un essai afin de passer devant. On va dire qu'il y a eu un non-match de l'équipe de France là-bas. Les moins de 20 ans discutent leur Coupe du Monde. Ils ont terminé ex aequo de leur poule avec le Pays de Galles et en match de barrage, ils les ont battus et vont pouvoir jouer la 5e place contre l'Australie. Après avoir battu donc le Pays de Galles 19-18, un petit point qui leur permet simplement de jouer la 5e place. Ça, c'est pour les moins de 20 ans. Il y avait aussi nos clubs régionaux en demi-finale du championnat de France fédéral, la Fédérale 2. Alors Groyer accède à la finale en ayant battu Agde par 23-19 et jouera Soyaux Angoulême en finale de Fédérale 2, donc pour être aussi champion de France. Et dans la région, Cahors jouait les quart de finale contre Saint-Paul et Dax, et Cahors a battu Saint-Paul et Dax 23-6 et jouera lui aussi les demi-finales du championnat de France contre Aubagne. Donc un super match pour nos deux équipes régionales. Voilà pour le rugby.
Et dis-moi Jean-Claude, comment ça peut arriver ça, que deux équipes comme ça fassent que 6-0 au niveau international? C'est rare quand même.
Ah ben, et je te dis, je ne sais pas si tu as vu le premier match de l'équipe de France contre l'Australie. Ils prenaient le haut de partout.
Oui.
À la fin de la première mi-temps, il y avait 4 essais à 0 pour les Australiens. Philippe Saint-André avait mis une équipe de pas motivés, toi, c'est des gens qui avaient fini le championnat, qui sont allés là-bas en touriste. Donc il s'est énervé un peu parce que son bilan est catastrophique depuis qu'il est entraîneur. Et là, il a serré les boulons, il a tellement serré les boulons que ni les Australiens ni les Français, ils ont fait que défendre. Tout le match, il fallait surtout pas prendre de points. On a loupé 2 pénalités qui nous auraient fait à 6-6. Mais alors, c'est un match de rugby, toi, qui ressemblait plus à un match de foot que rien, toi. D'habitude, t'as du score, t'as des points, quand tu vois Nouvelle-Zélande-Angleterre, où ça finit par 28-27, où l'Angleterre est revenue à un point la dernière minute, Je vois des matchs de rugby, tandis que là, on n'a rien vu du tout.
Et dis-moi, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait 0-0 en rugby?
Ah oui, 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 plus d'une fois. Il y a eu une finale de championnat de France qui s'est finie par 0-0, et il y a eu 3-0 après prolongation.
Ah ouais, carrément.
On passe directement au rugby local, si tu veux bien, Jean-Claude Desfarges.
Ah ouais, bah écoute, le rugby local, on a l'US Montauban qui est après 4 années de... on va dire de disette, et enfin remonter là où elle aurait toujours dû être, c'est-à-dire en Pro D2, dans le rugby professionnel. Les 12 500 supporters de Saint-Piac le méritent largement. Et en plus, Montauban a été gagné le titre de champion de France contre Massy par 14-18, avec un match où il faut pas trop se prendre l'arbitrage, parce que les 5 dernières minutes, ça a été waouh, terrible.
Un peu, oui.
Terrible, terrible, moi, je te jure, j'en pouvais plus, moi. Et alors, le lendemain, eh ben, je suis allé revoir tout le monde un peu... dans le calme, on va dire. Et voilà, le petit reportage que j'ai fait le dimanche matin à l'arrivée du bouclier, enfin, où ce qu'il en restait, à Montauban.
Est-ce que vous êtes là, Montauban? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes venus pour eux. Alors, on va vous présenter tous les joueurs qui sont ici présents. Alors, il s'agit tout d'abord d'honorer notre capitaine et talonneur, Romain Logan.
Avec Mickaël Ladu, malgré le prix. Alors Mickaël, quel sentiment cette victoire?
Ah, c'est beaucoup de bonheur. C'est... avec un public comme ça, ça fait plaisir de ramener le bouclier. Même si le sensei était fait il y a 15 jours avec la montée, c'est la cerise sur le gâteau.
L'année prochaine, en 2014-2015, tu vas te terper Albi avec le Sporting que tu connais très bien, toi.
Ouais, ça va être un grand bonheur de revenir au stadium. J'ai vraiment vécu de belles années là-bas. J'ai encore de très bons souvenirs et vraiment ça va être avec un grand plaisir que je vais y retourner.
Vous avez fait une belle fête cette nuit là?
Oui, elle se continue encore.
Bravo pour le bouclier, bravo pour votre saison. Et alors, t'es rentré sur le terrain en remplacement de ton capitaine inopinément là. Ça doit pas être facile si tu as géré ça tout de suite?
Non, ça va, ça s'est bien passé. On est préparé pour ça.
Aujourd'hui, c'est la véritable union qui lie un peuple du rugby avec une équipe. Avec des joueurs, avec un staff, avec un encadrement qui est allé au bout de lui-même pour ramener à la ville de Montauban, pour ramener au peuple de Saint-Pierre-Quem le lustre qu'elle avait perdu il y a 3 ans, 4 ans. Donc aujourd'hui, c'est devant vous un grand honneur d'être le représentant de l'association. Et là, je veux parler au nom du plus petit joueur, qui est le jeune pouce, qui a 5 ans, qui commence à connaître la couleur verte et noire. Il commence à connaître ce que c'est que le rugby, ses valeurs éducatives, et qui a aujourd'hui une image avec ce groupe multi-ethnique, multiculturel, ce groupe montalbanais, uni comme jamais pour avoir le même objectif, celui d'être champion de France. La France, c'est ce pays qui permet d'organiser des rencontres comme ça. La mairie de Montauban a parfaitement compris que le rugby était un vecteur d'éducation et de communication. Aujourd'hui, nous sommes là où nous devons être. 4 ans, c'était beaucoup trop. On n'aurait pas supporté un an de plus. Alors au nom de tous les miens, c'est-à-dire tous ceux du club, merci peuple Saint-Pierre-Quem, merci peuple Montalbanais, d'avoir été à la hauteur de l'événement, d'avoir été à la hauteur de votre équipe. Merci du fond du cœur.
Bon, nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui avec le bouclier. Je tiens surtout à vous remercier parce que vous nous avez fait vivre quelque chose il y a 15 jours à Saint-Piac qui a été exceptionnel. J'ai fait beaucoup de matchs à Saint-Piac en tant que joueur, entraîneur. Je pense que je n'ai jamais vécu une telle ferveur dans ce stade. Je pense que la montée, on vous la doit beaucoup. Plus, hier, à Libourne, on vous amène aujourd'hui ce trophée. Nous sommes très fiers d'être avec vous. Nous sommes très fiers d'avoir fait tout ça pour vous. On vous aime, allez Saint-Piac.
Merci,
Elvis, la fête a été belle?
Très belle, très belle. On
après le match de Lille, tu m'as dit qu'elle allait tout exploser en finale. C'est
ouais,
fait.
C'est fait, c'est fait. Maintenant, c'est
et
fait.
La nuit a été courte.
Ils nous ont filé un bouclier pété, bordel. C'est un scandale.
Et qu'est-ce que tu lui as dit à l'arbitre là? Tu l'as invité à boire la pétanque?
Ouais, je lui ai dit, écoute, on plie ça vite off et on va boire une mousse parce que là, il fait chaud. Allez, ça va.
Eric Blanc, ça vous rappelle de bons souvenirs, un bouclier, vous?
Oui, bien sûr, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Il y en a eu 4 dans l'histoire de Montauban, 1967 avec Loulou, mon père. Il y a eu 2001, 2007, et puis maintenant il y a 2014 où on revient sur les rails et où notre chemin de croix était très long.
Alors déjà, vous avez les félicitations du Sporting Club Albigeois. J'ai eu quelques joueurs au téléphone. Ils sont heureux de vous retrouver. Et d'autre part, vous avez aussi les félicitations de l'Est Clermont-Ferrand, Auvergne. Que j'ai eu aussi par mail et qui m'ont dit, si tu vas là-bas, tu félicites tout le club.
Mais on est très heureux que ces clubs prestigieux de Clermont et d'Albi nous félicitent. Et puis nous, on est heureux aussi de retrouver nos amis albigeois. Et j'espère qu'il y aura de beaux derbys avec du beau jeu.
Je suis avec Jean-Pierre et Alain, supporters de Montauban. Vous êtes à Libourne.
Oui.
Alors, comment s'est fait ce match?
Oh, c'était super, un peu tendu au départ, mais bon.
Du côté supporter, le dernier quart d'heure.
Ah, ça a été dur.
Stressant à la fin.
C'est bien, bon, ben, continue la fête ce soir.
Ben, on y va. On y va.
Bon, ben, on prenait deux l'année prochaine alors.
Oh, oui, puis on espère faire de belles choses.
Ah bah dis donc, il y avait du bruit, hein.
Ouais, et encore, ça n'a pas passé le pire.
Tu t'adresses à David Dumont, c'est lui qui s'est chargé du montage, parce que effectivement, il y avait des kilomètres et des kilomètres de son, des kilomètres de reportage. Bravo, encore une fois, pour ce reportage, et on suivra de toute manière. Hein,
Écoute, moi j'ai pris l'engagement que l'année prochaine, je serai obligé de suivre. Et Albi et Montauban en Pro D2.
Ouais, mais il faut pas être obligé, il va falloir soutenir vraiment, tu vois, il va falloir que tu viennes habillé en vert et noir, tu vois, que tu fasses des choix, quoi, tu vois.
Vert et noir, ouais, d'accord.
Et au niveau de l'effectif, comment ça va se passer l'an prochain? Parce que j'ai entendu qu'il y en a pas mal qui vont partir quand même.
Ah, mais il y en a déjà pas mal qui sont partis. C'est-à-dire que l'effectif, en ce moment, il faut une ossature pour la Pro D2. Ça n'a rien à voir avec la fédérale. Tu sais, quand tu vas recevoir Perpignan, Biarritz, Agen et compagnie, ça n'a rien à voir avec Lormont, ni Rodez, ni Nevers. Hein, tu sais, même si je respecte beaucoup ces clubs. C'est des machines, hein. C'est des mecs qui ont des internationaux dans toutes les lignes. Et Montauban, avec le budget qu'ils ont, ils ont déjà commencé à recruter un peu. Et il leur manque quelques cadres par ligne, mais ça va venir. Le souci du départ en Pro D2, il faut uniquement un bon tirage pour les 5 premiers matchs.
Et au niveau budget, ça se passe bien quand même.
12e budget de la Pro D2.
Ah, ça va, ouais. Ah, je pensais pire.
12e sur
budget sur ces équipes. Hein.
Sur combien?
16.
Eh oui, voilà. Ouais. Donc,
faut faire gaffe. C'est-à-dire, moi, je vous donne un exemple simple. On a parlé avec les entraîneurs à la fin du match. La saison d'avant, Albi avait le même budget, avait commencé fastoche le championnat pour des équipes moyennes et s'était retrouvé après un match 5e. Et là, cette année, ils ont commencé dans le dur. Ils se sont retraînés toute la fin de la saison dernière et ils ont ramé pour revenir au classement. Il faudrait que Montauban tombe sur des équipes de leur niveau. Pour le premier cycle de 5 matchs, ça serait bien.
Voilà pour le rugby. Je sais pas si on a parlé de basket, de cyclisme, notamment du Dauphiné libéré. Je sais pas si on a dit qu'il s'était réveillé, Schumacher. Je sais pas si on a dit tout ça. Et je crois pas qu'on l'ait dit. Alors on va faire un petit peu de pub et puis on va dire tout ça avant de passer à la rubrique Handisport.
CFM à Moissac, 90.7.
En Tarn-et-Garonne, c'est naturel de partager un repas entre amis, des idées ou même sa voiture. Alors pourquoi ne pas partager la route? Nous sommes tous, à un moment, un usager fragile de la route, un usager sans protection. Et un jour, peut-être, une victime. En 2013, des piétons, des cyclistes ou des motards ont payé de leur vie l'inattention et le manque de partage. Si vous ajoutez l'absence de ceinture, l'alcool, les arbres et les murs, on sait tous ce que ça donne. En 2014, partagez la route. Sécurité routière. Tous responsables.
L'association Moissac Culture Vibration présente le 18e Festival de la Voix du 26 au 29 juin. Découvrez les sonorités de toutes les terres, flânez de jardin en jardin en profitant des spectacles. Dès le 26 juin du village des Voix au jardin du Cloître, enchantez vos yeux et vos oreilles avec les Sacoboutiers, Irma, vibrez avec Barbara Hendricks, Titi Robin et prenez le temps pour les spectacles gratuits dont Nadaou le 29 juin à 20h30. À Moissac, 18e Festival de la Voix. Infos et réservations sur moissac-culture.com. Du 2 au 11 juillet, venez fêter la 33e édition du festival Jazz à Montauban et en Tarn-et-Garonne. Au programme, George Benson, Ben l'Oncle Soul, Kezia Jones, Ibrahim Maalouf, Matthew Lee, Chucho Valdés au Jardin des Plantes de Montauban, ainsi que dans certains des plus beaux sites historiques du département. Réservez vos places pour Jazz à Montauban dans vos points de vente habituels et sur jazzmontauban.com.
Samedi 21 et dimanche 22 juin, l'association Vol Libre en Ballon vous propose Ballon et Bastide en Rouergue. 25 montgolfières survoleront les bastides de Villefranche de Rouergue et Najac pour un spectacle haut en couleur et unique en Aveyron. Samedi et dimanche à 18h30, les ballons décolleront de l'aérodrome de Villefranche et de Najac samedi matin. Ballon et Bastide en Rouergue, les 21 et 22 juin à Villefranche de Rouergue et Najac. Informations et réservations des vols à l'office de tourisme de Villefranche de Rouergue. Avec le soutien de Primagaz, la mairie de Villefranche, le conseil général de l'Aveyron, Hyper-U, la caisse d'épargne, Photo Vernet et CFM.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2.
Alors David Dumont, tu prends la suite, s'il te plaît.
Avec plaisir, mais avant de vous parler de basket, de cyclisme et de sport auto, un petit mot sur le match Allemagne-Portugal. Là, ça a commencé il y a 20 minutes. Et il y a déjà un but, David Fabius, ouais. Suis ça pour nous.
Il y a déjà 1-0 pour l'Allemagne, but à la 12e minute de Müller sur penalty. Voilà, 1-0 pour l'Allemagne.
Voilà, à la moitié de la première mi-temps. Sinon, on revient sur un autre Allemand qui a fait un peu la une aujourd'hui, c'est Michael Schumacher, t'en parlais Rémi, le pilote de Formule 1, gravement accidenté cet hiver en ski, tout le monde s'en souvient évidemment. Et on a appris aujourd'hui que Michael Schumacher était sorti du coma, d'une part, d'autre part qu'il avait quitté le CHU de Grenoble pour rejoindre une résidence tout aussi spécialisée, mais plus près de chez lui, à Lausanne. Michael Schumacher serait donc sorti du coma, il aurait ouvert les yeux et pourrait communiquer avec sa famille. Alors, je vous dis pas qu'il tape des grandes discussions et que tout va bien pour Michael Schumacher, mais enfin, il y a un léger mieux pour le champion du monde de Formule 1. Donc, une bonne nouvelle tout de même pour ceux qui apprécient ce grand pilote de Formule 1. À part ça, les sports automobiles ce week-end, c'était aussi, il fallait pas l'oublier, les 24 heures du Mans Auto, avec une victoire allemande, là encore, dans cette compétition, puisqu'il y a eu un doublé Audi à l'arrivée. C'est l'Audi numéro 2 qui s'est imposé, avec un Français dedans, Benoît Trélullier. On va le saluer, c'est sa troisième victoire lors des 24 heures du Mans Auto. Il y avait aussi de la moto. Un petit mot là-dessus avec Marc Marquez, le nouveau super champion de la vitesse moto, qui a empoché une 7e victoire en 7 courses dans ce championnat du monde. Il a devancé hier Ivan Pedrosa. Un petit mot de basket, ça c'était cette nuit. J'ai Clément en service civique qui a essayé de suivre ça. Il s'est endormi du coup ce matin, il est arrivé en retard. Vous n'avez peut-être pas pu le suivre et tenter de le suivre, mais sachez que San Antonio, les Spurs de Tony Parker ont remporté le championnat nord-américain de basket, la NBA, le titre NBA, comme on dit, c'est le 5e titre pour San Antonio et le 4e pour le Français Tony Parker, qui devient du coup le joueur européen le plus titré de l'histoire du basket américain. On parle beaucoup de Coupe du Monde puisque cette saison, au début du mois de juillet, on parlera aussi pas mal du Tour de France. Et il y avait ce week-end l'arrivée un petit peu de l'épreuve, l'antichambre de ce Tour de France cycliste, avec le Dauphiné libéré, avec des routes qui ressemblent un petit peu à ce qu'on va rencontrer sur le Tour de France, notamment dans les Alpes. Et là, c'était un peu la surprise à l'arrivée, puisqu'en général, celui qui remporte le Dauphiné, souvent on l'annonce, il est le vainqueur plus tard du Tour de France. C'était le cas l'an passé avec Froome. Et là, Froome, vainqueur du Tour de France l'an passé, a été à la peine sur ce Dauphiné libéré. Il est peut-être pas encore à la pointe de sa préparation, et je ferai aucun commentaire là-dessus. C'est l'Américain Andrew Talansky qui s'est imposé dans ce Dauphiné libéré, un inconnu pour ceux qui ne suivent pas à fond les épreuves cyclistes. Andrew Talansky qui a réussi hier, lors de la dernière étape, à devancer Alberto Contador, que tout le monde connaît, Alberto Contador qui a longtemps été leader de cette épreuve et qui termine deuxième. Donc Contador, on devrait le voir sur le Tour de France, maintenant il paraît qu'il est propre. On verra ce que ça donne sur ce Tour de France. Froome a survécu, vainqueur tenant du titre, donc à la peine, on verra. Puis donc Andrew Talansky, retenez son nom, on le verra certainement sur les routes du Tour de France cette année.
Et dans quelle ville le Tour de France passe dans le sud-ouest?
Question piège, Yannick. Si tu m'avais demandé le départ, je t'aurais dit le 5 juillet en Angleterre. Dans le sud-ouest, je sais que cette année, il passe pas en Aveyron, mais je crois qu'il passe pas loin de Montpellier, mais on va pas être gâté dans la région Normandie-Pyrénées, à part pour ceux qui sont vraiment dans les Pyrénées.
C'est un peu loin là, ouais.
Ouais.
On le suivra comme d'habitude en faisant à moitié la sieste à la télévision de toute manière. Voilà, Jean-Claude Vigroux nous parle maintenant d'un tournoi international de jeunes qui s'est déroulé en Aveyron le week-end dernier.
Ouais, ça va être plutôt moi parce que Jean-Claude, il était à fond sur la Coupe du Monde là.
Il est la sieste.
Et les petits jeunes de 13 ans, ils s'en occupent pas encore, donc c'est moi qui m'en suis occupé. C'était un tournoi international qui s'est disputé tout ce week-end à Aunay-le-Château, aux portes de Rodez. Tournoi important, un tournoi international, même si c'est des 13 ans. Sachez que j'y avais assisté l'an passé. Certains de ces jeunes joueurs ont déjà des contrats ou des pré-contrats professionnels à 13 ans. Et ils tournent un petit peu partout dans la France et font quasiment, alors, peut-être pas tous les week-ends, mais régulièrement des tournois un peu partout en France. C'est Bordeaux qui était tenant du titre de ce tournoi depuis plusieurs années, et ça a été un petit peu l'événement ce week-end. Bordeaux a perdu son son titre, et c'est une équipe italienne. Hein. Quand je vous dis tournoi international, je déconne pas. L'équipe de Cesena qui s'est imposée dans ce tournoi international là, grâce à une victoire en finale, 1-0 face à l'équipe de Lille. Voilà, ces tournois, moi j'aime bien suivre, c'est comme en tennis, voir les jeunes pousses, après ceux qui deviendront des champions. Bah là, sur les terrains de Donnet-Château, en Aveyron ce week-end, il y avait sûrement des joueurs qu'on verra ensuite en Ligue 1, dans les championnats professionnels et peut-être même dans des Coupes du Monde.
Un petit peu de... Qu'est-ce qu'on fait là ? Un petit peu de quoi ? Un petit peu de résultats avec Jennings et normalement, si tout va bien, au téléphone, Benjamin. Oui. Voilà, donc on n'a pas une virgule sonore genre pour faire Andy Sport. Tadadam !
Un petit jingle.
Voilà. Bon, les pandas vont bien ?
Eh ben écoute, justement, j'allais parler de la finale qui s'est déroulée le week-end du 8 juin. Et c'est Perpignan qui a réussi à s'imposer contre Cahors en finale sur un score de 44 à 40. Ça a été une finale vraiment magnifique, hein, comme on s'y attendait, avec une finale donc très accrochée, très disputée, non, où les équipes franchement se sont données coup pour coup, et la preuve, à la mi-temps, il y avait 30 partout, donc franchement c'était un super match. Et en plus, il s'est déroulé dans une super ambiance, avec beaucoup de supporters de Cahors en plus. Et oui, en ville voisine, hein, ils se sont pas gênés de descendre, ils ont bien fait. Et pour organiser cette finale, et je voulais absolument en parler, il y avait quand même beaucoup de bénévoles qui ont permis d'organiser cette finale. Donc voilà, je voudrais leur tirer un grand coup de chapeau. Et puis, en quad de rugby, ce week-end, il y avait lieu à Toulouse le Rock'n Rose Europa Cup. C'est un tournoi opposant des équipes d'Europe, dont le Stade Toulousain et la sélection de l'équipe de France. Et c'est le FHI Falcon, c'est un club danois, qui l'a emporté. Et le Stade Toulousain, donc, qui a accueilli ce tournoi, a fini troisième, juste devant la sélection de l'équipe de France, qui en a profité d'ailleurs de ce tournoi pour préparer la Coupe du Monde qui aura lieu à Odense, au Danemark, début août.
Benjamin, bonjour.
Oui,
comment ça va ?
Bonjour à tous. Ça va très bien, donc je vais faire aussi un petit retour sur... Il y a une dizaine de jours, donc il y avait Roland-Garros, donc pour ceux qui ne savent pas encore, donc il y avait des Français engagés. Donc malheureusement, notre numéro 2 mondial français, Stéphane Houdet, s'est incliné en finale du simple, mais il s'est rattrapé dans le même temps en remportant la finale en double avec un Belge, Joachim Gérard. Ils affrontaient une paire française et argentine, Nicolas Pfeiffer et Gustavo Fernandez. Donc c'est bien parce que du coup, il conforte sa première place au classement mondial en double. Et voilà, donc c'est plutôt bien parce que il était tenant du titre en double, donc c'est bien, il confirme. Autrement, il y avait aussi le championnat de France de cécifoot. Ça s'est terminé le week-end il y a 10 jours, et Bordeaux s'est imposé, donc ils font le doublé championnat Coupe de France, donc bravo à eux. Et chez les non-voyants et chez les malvoyants, c'est Boulogne-Billancourt qui remporte le championnat de France. Donc ils confirment leur force de l'année passée déjà. Sinon, pour cette semaine, il y avait l'Euro d'escrime à Strasbourg. La France remporte 9 médailles. 2 en or, 3 en argent et 4 de bronze, sachant que les hommes, ils remportent une médaille par équipe dans chaque catégorie, à l'épée, au fleuret et au sabre. Donc vraiment bravo, parce que une super performance.
Il y a 2 escrimeurs toulousains, il me semble, non, en équipe de France.
Des Toulousains, je ne sais point. Bonne question.
Mais les décidément, toi, t'as les bonnes questions qui te tuent en ce moment. Hein,
ah ouais, je suis chaud là.
Qu'est-ce que c'est, ouais. Parle-moi. Je suis sur ton site internet, Benjamin, Cœur Andy Sport, là, sur ta page Facebook, et je vois que mardi, tu mettais en avant une table ronde sur maman handicapée, super maman, le défi d'une vie. Qu'est-ce que c'est ça?
Alors, c'est pour le thème de l'handiparentalité et sur le fait que on peut s'accomplir même en situation de handicap, surtout pour les femmes, qu'elles peuvent malgré tout avoir des enfants et que ça doit pas être un obstacle par rapport à ça. Donc, c'est un débat.
D'accord. Ciné-débat, quoi, comment on en fait un petit peu partout, projection d'un film et puis ensuite discussion. C'était où ça? C'était à Paris, c'est ça?
C'était à Lyon.
À Lyon, d'accord.
Ouais, c'était à Lyon, avec certaines femmes justement qui sont en situation de handicap et qui ont eu des enfants et avec des beaux témoignages. C'est vraiment sympa.
Ok. La suite. Oui, tu avais.
Pour terminer sur les féminines, cette semaine, il y a le début du mondial de basket fauteuil féminin à Tongroton. Donc, il y a l'équipe de France qui est en lice. Il y a 12 joueuses françaises qui sont alignées. La dernière fois qu'ils avaient participé au mondial, c'était en 2006. Ils avaient terminé 8e. Et dans l'équipe de France, moi, je vois qu'il y a une joueuse, Émilie Ménard, qui est de Blagnac, donc c'est pas très loin de chez vous. Donc, on va suivre leurs prestations dès vendredi prochain.
Et Gaëlle Bessière, qui est aussi joueuse du COSAD Handy Basket.
Ça? Ah oui, d'accord, ouais, parce qu'il n'y avait pas son club, donc voilà, belle info.
Voilà, merci messieurs. Prochaine chronique handisport la semaine prochaine, à lundi prochain, hein, c'est ça? Non, je me trompe? C'est l'heure de l'agenda. Et l'agenda, forcément, avec une grande, grande place à la Coupe du Monde, non, David?
Et pas mal, ouais, pas mal. Tant que j'y suis, je vous donne l'évolution. Toujours 1-0, c'est la 24e, et toujours 1-0 pour l'Allemagne, donc, dans ce match. Pour terminer, ces premiers matchs de poule, il restera l'Iran face au Nigeria, le Ghana face aux États-Unis. On aura un match qui va nous intéresser, nos amis algériens et nos amis belges qui vont se rencontrer. Ça sera donc mardi, la Russie face à la Corée. Après, on va regarder un petit peu ce que fait le Brésil. Le Brésil affrontera le Mexique, un match certainement compliqué, je pense, pour les Brésiliens. Qu'est-ce qu'on a noté comme match? L'Espagne va essayer de relever la tête, de sortir la tête de l'eau, qui est tenant en titre, et qui affrontera le Chili, un match qui sera pas non plus évident. On a noté également l'Italie contre le Costa Rica, et puis forcément, le match qui nous intéresse, nous, ça sera vendredi soir à 21h, les petits Suisses contre les Français. Donc, on suivra ça, et on vous en reparlera lundi prochain.
D'accord, Eric.
Et côté rugby, Jean-Claude, c'est pas fini la galère de l'équipe de France en Australie?
Jean-Claude, sors de la sieste.
Oui, il va rester un test match ce samedi à 7h du matin, 7h30 du matin, heure française, contre l'Australie. Dernier test où les Français vont rejeter leurs dernières cartouches, leurs derniers atouts, leurs dernières forces et leurs dernières passes et leurs derniers coups de pied.
Et en handisport, Jennings?
Eh bien, justement, Benjamin vous en a parlé du 20 au 28 juin. Et prochain, il y a le championnat du monde de basket fauteuil. Et donc, avec Gaël Bessière du Costa d'Andy Basket. Et puis, vendredi, il y a une émission de télé avec Vincent Hurtel, qui est cinquième mondial au triathlon handisport. Et il est dans l'émission de Sophie Davant, qui est toute une histoire. Et il va parler justement de sport et handicap. Donc voilà, ça peut être intéressant de regarder.
D'accord, d'accord. Et puis moi, je vous annonce que en ce moment, jusqu'à la fin du mois, se déroule ici à Montauban le tournoi de tennis ATM. On vous en tiendra, on vous en donnera plus de résultats lundi prochain. Et puis il y a également ce tournoi de beach soccer dont on a parlé aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Hein. Regardez pas trop le foot quand même, parce que sinon pensez à la pub de Marc Dorcel. Oh. Non mais c'est vrai quoi. Faites attention, ça peut être dangereux.
De toute façon, il y a toujours deux ballons à la base. Hein.
Oh là là. Allez, encore une dernière pour la route là, quelqu'un.
Là, vous êtes en train d'énerver notre ami David.
Non.
Allez, ciao.
Allez, au revoir à tous.
Ciao, à plus.
Ciao tout le monde.
Tout le monde, à la semaine prochaine.
Ciao.
Lundi sport c'est terminé, mais nous Rémi on reste là et on offre des cadeaux dans 5 petites minutes.
Oh là là, on a des places pour plein de festivals, festival de jazz de Montauban, festival post-guitare d'Albi, j'ai des places pour des festivals en Aveyron aussi je crois, pas mal de choses, bougez pas, on change de jeu aussi, nouveau jeu.
Après le journal.